RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Nous continuons avec Stéphane Clerget à évoquer le choix des prénoms et bien sûr vous pouvez témoigner au 32-16. Ensuite on évoquera la voix, le pouvoir de la voix. C'est Jean Habitbol qui sera avec nous, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris et chirurgien ORL. On aurait pu s'en douter. En love conseil, je vous proposerai de votre chambre feng shui. Vous aurez peut-être une chambre plus apte à la sérénité, à l'harmonie et à l'amour. Et puis le Wikisex du jour, Stéphane Clerget, qu'est-ce qu'on dit à notre enfant qui nous a surpris en train de faire l'amour ?
On lui dit qu'on était en train de jouer, mais que c'était des jeux d'adultes et que c'est des jeux qu'il pourra faire plus tard quand il sera adulte. On lui dit surtout qu'on se faisait pas de mal et que tout va bien et qu'on aurait préféré qu'il y assiste pas parce que c'est réservé aux adultes.
J'aime bien parce que vous avez l'art de toujours dédramatiser des choses qui paraissent pour certains adultes tout à fait un...
Mais c'est important de les dramatiser. Moi, je vois beaucoup de jeunes adultes qui ont été marqués par ça et qui ont surtout imaginé quelque chose. Je me souviens d'un jeune adulte que je vois qui avait assisté à cette scène et qui avait l'impression que son père n'y arrivait pas. Et donc, il avait une image d'impuissance de son père. Bon, je vous dis pas toutes les fois où on avait l'impression que le père faisait du mal à la mère,
bien
évidemment.
Bien sûr.
Donc, c'est important de rassurer.
Et les réponses au Wikisex, vous les retrouvez bien sûr toutes sur rmc.fr. Et je rappelle le dernier livre de Stéphane Clerget, Comment être gay et joyeux ou lesbienne et sereine, aux éditions Limonade, pour éventuellement si vous avez un ado qui se pose des questions ou qui vous a déclaré son homosexualité, ça peut vraiment l'aider. C'est maintenant Rémi qui est avec nous et qui n'aime pas vraiment son prénom. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous avez 37 ans et vous n'aimez pas votre prénom parce que votre père est parti quand vous étiez jeune et c'est lui qui avait choisi votre prénom, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il a choisi ce prénom, à mon avis, parce que déjà dans son enfance, c'était laborieux au niveau familial. Mais enfin, j'aurais aimé qu'on choisisse ce nom pour moi qui passe le boulot, quoi, parce que j'ai grandi en plus, si vous considérez mon âge, dans les années 80. Donc au moment où on sortait le dessin animé, je m'appelle Rémi, etc.
Rémi sans famille, hein, en relation avec l'histoire de Rémi sans famille pour
voilà,
nos auditeurs.
Aujourd'hui, j'ai encore 37 ans. Quand je me présente, il y a encore des gens qui me disent « Ah, Rémi sans famille ».
Vous voulez dire, peut-être que d'une manière inconsciente, votre père aurait choisi ce prénom. Enfin, je sais pas, c'est moi qui fais cette interprétation en tout cas.
Oui, en sachant un peu à l'avance que...
Peut-être. Ça, j'en sais rien. J'ai jamais eu d'explication. Je pense que j'en aurai jamais. Tout ce que je sais, c'est que lui-même avait un vécu très difficile avec sa mère et qu'il est parti chez lui à 16 ans. En tout cas, l'association du prénom, de la situation familiale et du dessin animé, c'est une situation qui était déjà relativement difficile à vivre. Et c'est une situation dans laquelle on me replonge quasiment systématiquement dès chaque fois que je me présente.
Je pense Rémi, parce que moi franchement j'avais pas fait cette association, je pense qu'il y a plein de gens qui ne la feraient pas, mais c'est tellement marqué chez vous que vous ne remarquez que ceux qui font cette association. Et je pense qu'il faut à un moment donné que vous arriviez à dépasser ça, parce que franchement moi je vous assure j'avais pas pensé à ça.
Je le dépasse aujourd'hui. Maintenant, quand vous avez 6 ans, que vous êtes à l'école, que vous vivez chez vos grands-parents et qu'on commence à vous chanter ça à tue-tête et qu'on voit très bien que c'est la seule chose qui arrive à avoir de la prise sur vous, parce que ça me rendait triste à l'école.
Attendez, je suis pas en train de nier votre souffrance, hein, Rémi. Je l'entends bien et je la comprends bien. Hein. Mais encore une fois, on retient ce qui nous touche. C'est toujours
compliqué. Oui, évidemment.
Non, et puis les enfants repèrent bien. C'est-à-dire que les enfants, entre eux, ils se lancent des pics.
Oui, tout à fait.
Et puis il y en a une qui marche, et quand ils sentent que ça marche, ils la lâchent plus après. Hein.
Exactement. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous dis, aujourd'hui, ça va nettement mieux. C'est beaucoup plus facile à vivre. Pour moi, j'ai plus de rancune envers mon père. Je lui ai reparlé. Bon, c'est pas pour ça qu'on se revoit plus, mais voilà. Je nourris plus de haine. Mais c'est. Je continue à l'entendre. et à mon avis, je l'entendrai toute ma vie. Et c'est en ça que rapport au prénom et au contexte familial, et ben là, c'était vraiment très mal tombé.
Mais vous, ce qui est plus dur, Rémi, c'est le prénom ou le fait que votre père ait quitté la maison?
C'est l'association des deux, si vous voulez.
Oui, c'est-à-dire que votre prénom vous rappelle que votre père est parti, quoi.
Mon prénom a fait en sorte que je mette énormément de temps à passer à autre chose.
Parce que ré, mi, fa, sol, la, si, do,
c'est hein, musical.
C'est musical.
Ça, je l'ai entendu 36 000 fois, mais ça ne me touchait pas.
Donc, on ne le répétait pas.
J'entends bien. Mais bon.
Vous n'avez pas eu de beau-père, Rémi?
Si, j'ai eu un beau-père qui a essayé de faire le boulot, mais bon, là après on était en conflit parce que c'est moi qui attendais que ça vienne de la part de mon père et pas de lui, donc ça c'était encore autre chose. Mais j'ai un beau-père avec lequel je discute pas mal, que je vois beaucoup aujourd'hui, et avec lequel j'ai pu discuter de choses à propos desquelles j'ai discuté avec personne d'autre.
Mm-hmm. Et est-ce que vous êtes père vous-même?
Non.
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 C'est compliqué.
Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que voilà, après bon, je vais essayer de faire court, mais disons que ces soucis d'enfance m'ont amené à avoir beaucoup d'autres problèmes dont je pourrais discuter dans votre émission, mais bon, voilà.
Mais je veux pas être plus indiscrète alors, Rémi, et merci d'avoir témoigné en tout cas, merci beaucoup.
Non, mais je vous en prie, c'est une bonne journée.
Au revoir.
Au revoir, Rémi.
On continue avec un autre Stéphane, le plus beau prénom du monde, c'est bien connu. Bonjour Stéphane.
Bonjour Brigitte.
Non, moi j'aime beaucoup Stéphane parce que ça commence comme une cravache et ça se termine comme une caresse. Voilà.
On est bien d'accord, c'est le plus beau prénom qui existe.
Et ben voilà. Hein,
et alors, ceux qui le portent en plus sont tout à fait à l'image du prénom.
On vous écoute Stéphane.
En fait, moi je voulais avoir l'avis de Stéphane, donc sur le prénom que j'ai donné à mes enfants, parce que j'ai en fait... Avec ma femme, nous avons choisi les prénoms d'une extrêmement courts et aussi très rares. Et pour cette raison, en fait, on n'avait pas de raison particulière à ça, mais c'est devenu comme une évidence. Donc je voulais savoir un petit peu quel était le rapport à ces prénoms-là.
Mais c'est-à-dire que le choix d'origine, c'était que ce soit court et que ce soit rare. C'est ça la priorité.
Quatre lettres et rares.
Mmh. Ben, évidemment, quand on porte un prénom rare, on a un peu tendance à se croire unique. Ça favorise évidemment cette dimension-là. Mais après, le fait que ce soit court, ça peut aussi effectivement influencer la personnalité. Mais le prénom proprement dit a aussi son importance. Peut-être que vous allez oser nous les donner.
Bien sûr. Donc j'ai ma grande fille qui s'appelle Nel. J'ai mon fils qui s'appelle Chad. Et j'ai ma petite dernière qui s'appelle Anna.
Ah oui. Mais ils existent, ce sont des prénoms qui existent.
Alors, Nel est un prénom qui existe.
Oui,
c'est prénom anglo-saxon.
Chad est un prénom qui existe aussi.
Les prénoms
celtes. Iana est un prénom qui n'existe pas. C'est une sonorité en fait. C'est une sonorité qui me plaisait. J'ai composé avec deux sons pour pouvoir avoir un prénom qui me plaisait.
Ben, c'est ce qu'on disait un peu avec Brigitte. C'est vrai que c'est très tendance, si j'ose dire, le fait de choisir des prénoms qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc si ça a un impact, ça va avoir un impact sur les enfants de cette génération. Alors Brigitte imaginait que ça pouvait être accentué peut-être une forme d'individualisme. Ce qui est certain, c'est qu'on va aller de plus en plus dans la dénomination des prénoms. Un peu comme aux États-Unis, on s'appelle plus facilement par les prénoms que par les noms. On voit ça dans les médias, même les hommes politiques, on va bientôt les citer par leurs prénoms. Donc c'est vrai que le prénom va être de plus en plus chargé et va de plus en plus nous définir. Donc je pense que ça va favoriser ce côté peut-être individualiste, en tout cas esprit un peu star, quoi.
Est-ce que c'est parce que je considérais mes enfants comme uniques que j'ai voulu leur donner les prénoms uniques?
Bon, ça, tous les parents considèrent leurs enfants comme uniques de toute façon.
Mais les parents actuels, autrefois beaucoup moins, on était
c'est vrai, puisqu'il y avait une mortalité infantile.
Autrefois, il fallait dans une famille, c'était des éléments d'une famille, d'un ensemble, qui s'inscrivait dans une tradition. Aujourd'hui, nos enfants, il y a des côtés intéressants à ça. Hein. On les investit, on les divinise, avec et du coup, ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Après, il faut évidemment que l'éducation fasse qu'il respecte les autres pour autant.
Mais vous êtes certainement quelqu'un qui est assez original, j'imagine, Stéphane, avec votre femme. Vous aimez, non ? Enfin, je suppose, alors, pour avoir choisi
original,
ce prénom.
Original, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de caractère, de nature à avoir un assez fort caractère. Et puis, j'aime pas ressembler à tout le monde. Ça, c'est aussi, cette chose-là. Voilà, c'est une évidence. Et puis surtout, je n'aime pas les stéréotypes non plus. Donc, c'est-à-dire que moi, je viens d'une famille originaire pied-noir, juive pied-noir. Les prénoms qui étaient dans ma famille étaient les prénoms qui avaient une connotation trop marquée. Et je ne voulais pas de ça. C'est pour ça que moi, j'ai pris des prénoms qui ont vraiment tous des connotations différentes, qui sont des origines différentes, puisqu'il y en a, c'est un prénom irlandais. L'autre, il y a une consonance un peu asiatique et
russe. Oui.
Mm-hmm. Non, Chad, c'est un diminutif de Chadwan, qui est un prénom turc à la base.
D'accord.
Donc voilà, il y a de l'Orient, il y a de l'Occident, il y a de tout. Mm-hmm. Quoi, voilà. Et vraiment parce que je voulais pas avoir de connotation.
Mais ce qui est intéressant,
mon nom de famille est déjà très connoté, donc voilà.
Mais Stéphane, ce qui est vraiment intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien toute la projection, parce que quand vous nous expliquez le choix de vos prénoms, on voit bien toute la projection que vous mettez sur vos enfants pour qu'ils se sentent uniques, qu'ils se sentent culturellement totalement ouverts.
Mondialisation, et d'après ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça nous éclaire aussi sur cette tendance. S'autorise à se déraciner, si je veux dire, par rapport à son histoire familiale, à plus d'indépendance, puisque vous dites, oui. Je veux pas qu'il soit prisonnier. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est plus le prénom est original et fort, effectivement, et plus le nom de famille, j'allais dire, a moins d'importance.
On est bien d'accord.
Donc vous allez les rendre très, très indépendants de la famille aussi, attention.
Non, mais ça me va très bien.
C'est ce que vous voulez.
C'est parfait. Votre choix a été le bon, donc.
Bon, ben voilà. Alors.
Vous okay. Voilà. Merci Stéphane, merci beaucoup de ce témoignage. Aurélie est avec nous maintenant. Bonjour Aurélie.
Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane.
Bonjour Aurélie.
Alors moi j'ai envie de vous raconter comment on a choisi le prénom de mon fils, sachant qu'en fait c'est pas vraiment nous qui l'avons choisi, en fait c'est mon fils lui-même.
Ah oui ?
C'est un peu étrange quand je dis ça, mais on en est persuadés.
Alors racontez-nous.
Alors déjà, pendant ma grossesse, on a fait beaucoup d'autonomie, donc vraiment pour développer le lien qu'il y a avec l'enfant, etc. Donc on était très attachés, en fait, à lui au moment où il était dans mon ventre. Et mon ami et moi, on était partis sur des prénoms complètement différents. On avait des prénoms qu'on aimait beaucoup, mais il n'y en avait aucun où on sentait relié à ce prénom, en fait. Et au bout de 7 mois, 8 mois de grossesse, on n'avait toujours pas le prénom. Tout le monde nous disait « Alors, il va s'appeler comment ?» Bah, on ne sait pas. Et en fait, on s'est dit, en fait, c'est lui qui va nous donner ce prénom. Donc, en fait, on lui a demandé on lui a dit, écoute, essaye de nous inspirer le prénom. Et au bout de mes 8 mois de grossesse, j'étais dans mon lit, il était 3h du matin, et je me réveille et je me dis, c'est cette nuit que je vais avoir le prénom, c'est obligé. Je me lève, je fais les 100 pas dans ma maison, je dis plein de prénoms dans ma tête, je me dis, non, c'est pas cela, c'est pas possible. Et je vais réveiller mon conjoint, donc imaginez à 3h du matin. Je le réveille, je lui dis « T'as pas un prénom là qui te vient tout de suite en tête ?» Il me dit « Non. » Il me fait « Attends, il se réveille un peu plus. » Et puis il me dit « Je sais pas pourquoi, mais je pense à une série que je déteste en plus, mais je pense à 24 heures chrono. » Je fais « Ah ouais, moi j'aime pas du tout cette série non plus, mais attends, je vais taper sur Internet et je vais voir le nom des acteurs qui jouent dedans. » Et donc on commence à lire la liste des acteurs et là on tombe sur une actrice qui s'appelle Elisha, blablabla, je sais plus son nom de famille. Et Thierry et moi, donc mon conjoint s'appelle Thierry, on se regarde, on se dit mais Elisha, mais c'est magnifique. Ah mais c'est ça, c'est Elisha. Et ça nous est tombé comme une évidence en fait.
C'était un prénom féminin, donc au départ.
Oui, oui. Exactement. Et en fait, oui, c'est vrai.
Vous connaissiez le sexe de votre enfant déjà?
Alors, moi, je le connaissais, mais pas mon ami. Il voulait pas se savoir. Et donc, on avait le prénom féminin, mais bon, je m'y attardais pas trop, on va dire. Et en fait, quand on a trouvé Elisha, moi, j'ai tout de suite après retapé sur Internet et j'ai regardé, en fait, que Elisha était un prénom comme Camille. Vous savez, c'est des prénoms qui peuvent être féminins ou masculins. Et en fait, il nous est tombé dessus ce prénom, complètement. Et on ne connaissait personne qui s'appelait comme ça. En plus, Elisha veut dire « bienvenue au messager ». Voilà, en plus, c'est avec une signification qui nous convenait parfaitement. Voilà, et on est persuadé, ça c'est nos croyances à nous, mais on est persuadé que notre fils en fait nous a inspiré
mais vos croyances, de toute façon, elles vont être aussi celles de votre fils, hein. De toute façon, les croyances des parents sont souvent très imprègnent beaucoup l'enfant, de toute façon.
Oui.
Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui.
Mais moi, ça m'évoque l'Antiquité grecque où effectivement la place des rêves était très importante et c'était considéré comme des messages envoyés par les dieux puisque les rêves étaient interprétés par les pitis. Donc c'est vrai que c'était plus dans les familles riches parce qu'il fallait avoir les moyens de se payer la pitis pour qu'elle les interprète. Mais en tout cas, un certain nombre de prénoms pouvaient être comme ça donnés grâce aux rêves. Mais on pensait alors non pas que c'était l'enfant mais que c'était un dieu qui nous disait.
Oui. Mais en tout cas, ça a été incroyable pour nous parce que on s'y attendait pas du tout. On était sur des prénoms vraiment très différents, mon ami et moi. Et il nous est vraiment tombé du ciel. Et c'est vrai qu'à beaucoup de mes amis qui étaient enceintes après, j'avais remarqué qu'il y a souvent des prénoms qu'on apprécie dans la vie, mais qu'on mettrait pas à notre enfant parce que ça résonne en nous de manière bizarre. Ça colle pas, on va dire.
Oui, mais ce que j'entends bien, c'est que vous avez tous les deux apprécié ce prénom au même moment, donc ça a fait sens pour vous. Et puis c'était un prénom au fond que vous ne connaissiez pas ni l'un ni l'autre, donc c'était un prénom nouveau et vous aviez envie sans doute que votre enfant soit vierge de toute interprétation, aussi bien par rapport à vous que par rapport à votre ami.
C'est très juste, effectivement, oui, c'est vrai que moi je m'appelle Aurélie, lui s'appelle Thierry, donc c'est des prénoms, on va dire, plutôt bateaux. Vous parliez tout à l'heure justement qu'on aime avoir des prénoms uniques pour nos enfants. On n'était pas vraiment dans ça, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, on aime bien aussi que son enfant porte un prénom que lui seul pourra porter. Et oui, c'est vrai que derrière tout ça, il y a ça. Mais c'était vraiment la surprise de découvrir aussi ce prénom comme ça, de manière très inattendue.
En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort. Hein,
oui.
Ce prénom inattendu, nouveau, c'est original.
Beau, oui. Moi, ce que j'aime dans votre histoire, c'est qu'il n'est pas encore né que déjà vous l'autonomisez, puisque vous considérez qu'il s'est auto-baptisé. Donc ça va certainement traduire une relation particulière à votre enfant, où finalement vous allez d'emblée le regarder comme un individu à part entière et pas un morceau de vous.
Merci en tout cas pour ce témoignage, Aurélie. Et c'est Clémence qui a testé pour nous cette crème de massage émotion de framboise. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Parfum framboise, donc ça, on l'a compris.
Exact. Oui, donc une crème de massage assez standard, sent plutôt bon. Elle colle pas par rapport à certaines crèmes qui peuvent être relativement désagréables. Donc non, pas vraiment de points négatifs. C'est pareil, j'en avais testé qui tassait les draps. Donc pas terrible. Donc là non vraiment.
Ce qui est pas mal parce qu'en général quand il y a des parfums comme ça très acidulés, parfois justement ça colle un peu ou c'est un peu gras. Tandis que là ils ont réussi. Mais est-ce qu'on sent bien le goût de la framboise ?
Non.
Ah bah
non.
Voilà.
C'est vraiment super léger. C'est vraiment très léger, ouais.
Et alors moi je me pose toujours la question avec les crèmes de massage, ça me préoccupe beaucoup. Est-ce qu'on peut ou non les mettre sur les muqueuses ? Est-ce que vous l'avez testé sur les muqueuses ?
Non, ouais. Alors moi je suis hyper sensible, oui. Il va être infection, etc. Donc je préfère éviter. C'est vrai que
a priori c'est mieux d'éviter.
Oui. Exactement.
C'est dommage.
Ouais, je me contente.
Mais ça s'appelle un lubrifiant après si on veut le mettre sur les muqueuses. Stéphane Clergé, il faut faire votre éducation sexuelle. C'est terrible.
Pourquoi vous croyez que je viens ici?
Non, la crème de massage c'est pour le corps, le lubrifiant c'est pour les muqueuses. Voilà, c'est dit.
Ça.
Bon, et ben quelle note vous lui donnez, Clémence ?
Bon, je lui donne un bon 8.
8 sur 10 pour cette crème de massage émotion de framboise. Vous pouvez vous la procurer si vous le désirez sur la rmc.fr. Merci Clémence. Stéphane Clergé, merci beaucoup. Le dernier livre, c'est Comment être gay et joyeux ou lesbienne et sereine aux éditions Limonade. Mais il y en a beaucoup aux éditions Limonade. Si vous avez besoin d'un conseil pour vos ados ou si en tant qu'ado, vous avez envie de vous instruire, n'hésitez pas. Toute la collection de Stéphane Clergé aux éditions Limonade est formidable. Allez, dans un instant, on va parler de la voix, les voix qui sont de séduction, de pouvoir avec Jean Abictol qui sera avec nous dans un instant.
RMC, Brigitte Lahaie, Love Conseil.
Alors, je vais vous parler de votre chambre, d'une décoration de chambre plutôt feng shui. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. On parle de plus en plus de ying féminin, de yang masculin. Alors, ying, c'est plutôt la terre, yang, c'est plutôt l'air. Et c'est vrai que dans une chambre, il vous faudra plutôt favoriser la terre parce que ça rassure. Alors, sachez que c'est plutôt les miroirs, le métal qui sont yang, tandis que ce sont les tentures, les coussins qui sont yin. Donc voilà, le désordre, en plus, il faut rappeler que c'est pas terrible dans une chambre, donc osez jeter plutôt que d'entasser trop de choses. Enlevez également tout ce qui vous fait penser au travail, hein. Et puis on dit aussi qu'il vaut mieux éviter les appareils électriques dans la chambre. Quant aux couleurs, rappelons que le rouge et l'orange sont plutôt yang, donc il faut plutôt favoriser le bleu, le vert qui sont yin. Et puis faites toujours un grand nettoyage lorsque vous investissez votre chambre. Pensez qu'après une maladie ou après une vraie crise de couple, il peut être intéressant de régénérer l'atmosphère, donc de changer éventuellement la décoration. Les bougies, les huiles essentielles, paraît-il, sont très très bien aussi pour donner une bonne atmosphère. Et puis, moi j'irais jusqu'à dire, n'hésitez pas de temps en temps à modifier la décoration, l'univers de votre chambre, parce que vous verrez que ça va modifier vos rapports amoureux, et donc ça changera un petit peu vos habitudes. Et ça, c'est toujours utile pour justement recréer de la fantaisie entre vous. La voix, on va en parler avec vous, Jean Habitbol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ORL, vous racontez dans ce livre Le pouvoir de la voix aux éditions Alary. Pourquoi vous êtes devenu ORL, hein, oui. Puisque c'était lorsque vous étiez interne aux urgences.
En chirurgie, tout à fait.
Et que vous avez, grâce à une intervention qui vous angoissait beaucoup, mais peut-être sauver la voix de cette jeune femme qui avait eu un accident de voiture.
C'est une très belle histoire. C'était le soir de Noël, effectivement, où c'était ma première garde de chirurgie générale. Après 2 mois de chirurgie, on me demande de faire une trachéotomie vers 6h du matin, ce que je n'avais appris que sur cadavre et jamais sur un patient. Et j'ai demandé donc à l'agrégé de venir, chef de clinique de venir. Ils étaient tous occupés, évidemment. C'était le soir de Noël, il y a eu pas mal d'accidents dans la voie publique. Trachéotomie. Et ce que je raconte, en fait, dans le livre, c'est comment j'y suis arrivé, tout simplement en me rappelant ce que je faisais rue de la Fère à Moulins. C'était un institut médico-légal, comment on faisait une trachéo. À ce moment-là, c'est... Donc tout simple. Et j'y suis arrivé en 40 secondes, ce qui m'a valu un peu le bizutage de tous mes collègues en me disant « tu nous as fait peur » et en fait pas du tout. Puis la deuxième chose extraordinaire, c'est que quand j'ai été, donc après l'avoir fait cette trachéotomie, c'était une fracture du larynx parce qu'on pouvait pas l'intuber. C'était y remettre un tube dans la gorge pour pouvoir la faire respirer. Et son compagnon me dit « attendez, son rêve c'est la voix ». Je dis « comment c'est la voix ?» Je dis « oui, mais enfin bon, elle va parler ». Il me dit « non, mais elle veut chanter ». Et à ce moment-là, on appelle le chef de service d'ORL qui vient quelques temps plus tard et qui me dit « Jean, ben écoute, voilà ce qu'on va faire, il faut lui reconstruire le larynx ». Et une chose extraordinaire, c'est quand elle est sortie du bloc, 3 mois après, elle me dit « de toute façon, si je pouvais pas chanter, pas parler, c'était pas la peine de me laisser vivre ». Et là, j'ai voulu savoir faire une trachéo très, très vite. Et là, j'étais donc interne à l'hôpital Foch. Et je suis rentré dans le temple à l'époque de la voix, qui était la laryngologie. Et on mettait au point toutes les nouvelles technologies de chirurgie laser à l'époque. Et voilà comment je suis tombé dans l'otorhinolaryngologie et la voix.
Alors moi, évidemment, ça m'a beaucoup intéressé, ce livre, Le pouvoir de la voix, aux éditions Alary, puisque c'est un peu mon outil de travail depuis 15 ans, hein, donc vous imaginez bien.
Non, depuis l'âge de 15 ans, pas depuis 15 ans.
Non, mais c'est mon outil de travail depuis 15 ans.
Oui, mais c'est l'outil que vous avez, parce que vous avez une voix grave, donc vous avez une voix qui séduit obligatoirement.
Oui, donc vous merci, c'est gentil.
Mais donc ça a été un des éléments.
Non, parce que je veux dire
passionnant dans la relation avec les autres. Il est évident que la voix est un pouvoir absolument extraordinaire, qui est un pouvoir inconscient.
J'entends bien, mais ma voix était plutôt aiguë à l'époque où j'ai fait des exploits comme ça, un peu sportifs, disons, et j'avais une voix assez aiguë et pas du tout posée. Donc il y a eu tout un travail pour poser ma voix et elle était beaucoup moins grave. Voilà. Mais donc vous nous racontez, vous nous expliquez vraiment bien ce qu'est la voix, et il y a des tas de choses qu'on apprend qui sont vraiment intéressantes. Et moi, il y a une chose qui m'a amusée. Vous dites, on ne peut pas mentir à un aveugle.
Oui,
ça, c'est une très belle histoire.
Oui, c'est une très belle histoire parce que finalement, dans la voix, lorsque vous parlez à un aveugle, et je préfère une anecdote extraordinaire que m'a raconté Christophe Lambert. Christophe Lambert était à un cocktail il y a une dizaine d'années avec Stevie Wonder. Il parle avec Stevie Wonder, il dit « Je suis Christophe ». Et Stevie Wonder lui répond « Mais je sais qui vous êtes. The Highlander. Mais j'ai vu tous vos films. Et puis, comment vous avez vu tous mes films? Il dit, ben, mon oreille, c'est mes yeux. Mais la différence, c'est que vous ne pouvez pas maquiller votre voix avec un visage ou avec un sourire. Moi, j'entends la vérité de votre voix. Effectivement, oui, absolument, on ne peut pas mentir à un aveugle. Il sait très bien si vous jouez avec la voix, si vous êtes sincère ou pas. Parce qu'une belle voix, c'est une voix qui est sincère. Pour pouvoir aller au bout de ce que l'on pense, il faut qu'à l'intérieur, on pense ce que l'on va dire. Et à ce moment-là,
la voix est très porteuse d'émotions, en fait. Oui. Et moi, je l'entends bien, puisque j'entends les auditeurs et j'entends leurs émotions. Et puis,
mais dans l'émission que vous avez faite juste avant, qui est sur le nom, c'est
le prénom. Sur le prénom.
Le prénom, tout à fait. Mais c'est longtemps que j'ai dit le nom. Parce qu'en fait, en Grèce, c'est d'abord le nom. Avant l'âge de 2 ans, on ne donne pas de nom, ni de prénom. Et le prénom, on le donne parce qu'il faut que la personne existe. Car donner, nommer quelqu'un, c'est le faire exister. Et à partir de là, en lui donnant son prénom, on le fait exister en tant que tel. Et j'ai beaucoup apprécié l'écoute, notamment de certaines personnes qui disaient, ben, en fonction de des voyelles ou des consonnes du prénom, on peut effectivement quelquefois aller façonner la personnalité de cet enfant. Tout à fait.
En tout cas, vous parlez de la séduction, hein, et c'est vrai que la voix fait partie des armes de séduction. Oui. Enfin, on a parfois été séduit par quelqu'un simplement parce qu'on a entendu sa voix, et on peut avoir une voix plus ou moins séduisante. On peut, vous venez de le dire, hein, il faut parler plus, enfin, tranquillement,
absolument,
avec une voix plus grave. Enfin, ça se pose une voix.
Mais la voix, c'est une alchimie. C'est une alchimie d'abord par rapport au monde de la raison et au monde de l'émotion. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a essayé de comprendre comment une voix peut séduire. Et on a fait ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on a mis des électrodes sur le cerveau, on a vu certains éléments qui s'allument. Et lorsqu'une voix va séduire, il y a certains éléments du cerveau qui vont s'allumer. Mais surtout, si on fait une prise de sang, par exemple, entre 40 et 60 secondes après une voix qui va séduire, vous avez une sécrétion d'ocytocine qui est l'hormone du plaisir. Et vous avez une montée extraordinaire de ce qu'on appelle la récompense. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est non seulement quelque chose qui, effectivement, sur le plan émotionnel existe, mais qui, derrière cela, va faire parler votre corps à la puissance 1000. Et on a fait des expériences là-dessus, entre l'écoute téléphonique de certaines voix par rapport aux femmes ou aux hommes, et voir si elles sont séduites ou pas.
Et il me semble, Jean Habit-Paul, que finalement c'est presque plus la musique de la voix, l'intonation, que les mots qui vont séduire.
Absolument.
C'est bien ça.
Oui. Les mots vous piègent quelque part. Vous parlez en français ou en anglais, je ne vais pas forcément comprendre si je ne comprends pas l'anglais. En revanche, la musicalité de votre voix va me séduire. La preuve en est, la preuve la plus flagrante qu'on a, c'est lorsqu'on écoute Le Dictateur de Chaplin, et qu'on a l'impression qu'il parle allemand. Il parle pas du tout allemand dans ce film. Et pourtant, on a peur, quoi. Sauf qu'à un moment donné, ça devient dérisoire, et on regarde. Donc, effectivement, la musicalité de la voix est fondamentale. Absolument. Absolument.
On a déjà Malouane qui veut témoigner, qui a priori attache une grande importance à la voix, et elle a bien raison. Bonjour Malouane.
Bonjour Brigitte, bonjour Jean.
Bonjour.
Donc oui, effectivement, excusez-moi, je suis un petit peu émue, mais je pense que ça s'entend, justement.
À mon avis, Jean Bidbol l'entend, oui.
Ouais. Voilà.
Il doit être assez spécialiste d'écouter les voix, j'imagine.
Oui, je n'en doute pas une seconde. Oui, effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a... Alors j'ai eu une éducation, on va dire, musicale.
Oui.
Je fais du piano très jeune. J'avais une maman qui était professeure et qui avait une voix posée, généreuse. Je dirais que oui, la voix, c'est quelque chose d'extrêmement important à mes yeux. Parce que tout simplement, il y a... effectivement, comme vous le disiez très justement, à mon avis, même si on peut apprendre à maquiller sa voix, puisque dans le milieu professionnel, on peut être amené à prendre certains tons de voix pour ne fût-ce qu'au téléphone, hein, par exemple, pour convaincre, pour passer des barrages. Je dirais que dans la séduction, on ne peut tricher qu'un temps, finalement.
Absolument.
Puisque lorsque vous rencontrez quelqu'un la première fois, ou si vous avez quelqu'un au téléphone, vous pourrez donner le change une fois peut-être, voire deux, mais au quotidien...
Mais en même temps, on peut être très déçu en rencontrant une personne. Parfois, les voix ne correspondent pas au physique qu'on imagine.
Absolument.
Il me semble.
Absolument.
Tout à fait, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Vous avez parfois des femmes magnifiques et il suffit qu'elles ouvrent la bouche. comment dirais-je, le mythe s'effondre.
Oui, c'est
voilà.
Vrai. Mais ce qui est très beau dans ce que vous dites, c'est que vous avez dit de votre maman qu'elle a une voix généreuse. Autrement dit, la voix va refléter non seulement effectivement une séduction, mais également un état d'âme et une façon de penser avec l'autre. Et oui, c'est vrai que le physique ne correspond pas toujours à ce que l'on veut entendre. Et c'est pour ça que la radio est beaucoup plus forte dans l'imaginaire de l'autre. C'est-à-dire que quand on écoute, rappelez-vous, Macha, quand à minuit, entre minuit et 2h du matin sur France Inter, c'était une voix absolument...
Ouais, elle avait une voix exceptionnelle.
Extraordinaire, oui. Qui venait, on ne pouvait pas lâcher la radio, on l'écoutait. Et la voix est pratiquement hypnotique dans ces cas-là, car elle veut faire appel à votre inconscient, qui est l'inconscient de la séduction des fréquences graves. Et oui, à ce moment-là, on va aller toucher quelque chose dans lequel vous n'êtes pas maître. Pour quelle raison? C'est simple. C'est ce qu'on appelle les réflexes de Pavlov. Car finalement, on est des mammifères, comme tout le monde. Et le brame du cerf, qu'on connaît bien, qui va faire appeler les femelles, eh bien, cette fréquence très grave va sécréter chez la femme le degré du désir. Maintenant, quel niveau? Avec notre éducation, la politesse de notre éducation, où on a été lissé, on dit attention, non, faut pas que je me laisse faire. Oui, là, on va devenir critique. Et c'est là où la voix, effectivement, est fondamentale.
Mais vous parlez de la voix grave, on l'entend bien que chez les hommes, c'est les hommes qui ont une voix grave qui vont plutôt séduire les femmes. Mais est-ce que c'est la même chose pour les hommes? Est-ce que c'est les voix graves de femmes qui séduisent? Pas forcément.
Oui. Bien sûr.
Oui, pareil,
c'est-à-dire que...
Plus on a une voix qui...
Voilà, pour faire l'histoire simple, c'est très simple. La voix chez la femme, la fréquence aiguë va lui donner, entre guillemets, sa personnalité. Mais une belle voix n'est une voix seulement et seulement si il y a du relief. Je m'explique. S'il n'y a pas de grave dans la voix, et qu'il n'y a que des aigus, c'est très... Je vous parle comme ça, voilà. C'est extrêmement désagréable. À ce moment-là, la voix grave est l'écrin de la séduction de la femme. Mais elle va pas dans les aigus. Et chez l'homme, c'est l'inverse.
C'est intéressant ce que vous dites, Jean Abitbol. Quand j'ai commencé cette émission, on m'a tout de suite dit, bon, ça va, tu as une voix de femme qui passe à la radio. Et en fait, il n'y a pas tant de femmes qui ont une voix de radio, justement.
Parce qu'elles incitent, quand elles arrivent en radio, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a un filtre par les micros qui fait qu'il y a certaines fréquences qui vont passer et pas d'autres. Ça, c'est une question technique. Puis la seconde, c'est que le stress chez la femme est beaucoup plus parlant que le stress chez l'homme, puisqu'elle part déjà avec des aigus dans sa voix classique. Et qu'est-ce que c'est que le stress? C'est qu'au moment où je vais dessécher mes cordes vocales, je peux plus parler, je vais monter dans les aigus pour pouvoir persuader l'autre. Et là, ça devient désagréable.
C'est moins agréable, en effet. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de trop stressé, ça c'est sûr. Alors, Ariane, est-ce que vous aimez votre voix? Est-ce que vous aimez votre prénom?
Alors, mon prénom, j'ai fini par l'aimer, oui, et notamment au niveau de sa musicalité. Et enfin, c'était quoi la seconde question?
Si, votre voix. Ma voix.
On finit par l'aimer à force de l'écouter. Avec ce retour casque, mais spontanément, la plupart des gens, et moi la première, initialement, on n'aime pas sa propre voix, parce que celle qu'on entend, qu'on enregistre,
on
la reconnaît pas, et elle nous paraît tout à fait étrangère, alors que celle qu'on entend à l'intérieur de nous, nous plaît beaucoup et est rassurante.
Oui.
Comment ça se fait? Pourquoi on ne reconnaît pas notre voix quand on l'entend?
Très simple. Quand on parle à l'autre, on parle par deux circuits. Le premier, c'est le circuit entre vos lèvres et l'oreille. C'est la façon dont l'autre va vous écouter. Mais vous avez votre propre voix, comme je disais tout à l'heure, qui va résonner à l'intérieur de vous. Et là, vous faites résonner toute la masse osseuse et la masse musculaire et graisseuse de votre corps, qui résonne que dans les graves. Donc quand vous écoutez, entre guillemets, sur une machine, vous écoutez la vraie voix de l'autre, mais pas la vraie voix à vous, puisque les fréquences graves n'existent plus, puisqu'elles ne résonnent pas. Elles sont le résonateur interne de votre corps. Donc oui, la voix que vous allez écouter est plus désagréable parce qu'elle est plus aiguë par rapport à la voix que vous pensez avoir.
Et si jamais on s'amuse à coller notre oreille contre le dos de notre interlocuteur, peut-être qu'on entendra encore une voix différente,
absolument,
et plus intérieure et
absolument,
plus intime.
Plus intime, je ne sais pas, mais plus réelle par rapport à l'autre, oui. Oui,
alors justement, Brigitte, cette fameuse voix, eh ben, certains ont trouvé le bon filon pour trouver l'amour. Au lieu de faire des sites de rencontres qui se basent essentiellement sur les photos, sur les échanges écrits, là, vous avez trois Nantais qui se sont dit, qu'un cela tienne, on va utiliser la voix pour trouver l'âme sœur. Et ils ont
un site de rencontres
qui s'appelle choisitavoix.com. Et l'idée, c'est donc de se présenter en laissant un message vocal. Mm-hmm. Et si la voix de celui sur lequel ou celle sur laquelle vous avez cliqué vous plaît, eh bien là, vous pouvez rentrer en communication, commencer un échange vocal.
C'est pas idiot. C'est... Mmh. Et puis en plus, on entend les mots qui quand même indiquent un niveau allez, on va dire spirituelle, pour pas dire autre chose, de la personne.
Oui, et ça en dit long, c'est ce qu'expliquent les concepteurs du site. Sur ses émotions, on trahit tant de choses par la voix, alors qu'on peut souvent un peu s'en défendre par
l'écrit. On reconnaît un éjaculateur précoce par la voix,
ah
par
oui,
exemple.
Comment parle-t-il, l'éjaculateur précoce? Très vite, comme ça.
Oui, il jette les mots assez vite.
Jette les mots assez vite. D'accord. C'est très, très parlant. Vous savez parler avec beaucoup d'images, Brigitte. Alors, vous avez donc ce site qui a été créé. Puis, j'ai trouvé d'autres choses amusantes sur la voix. David Lay, qui est professeur de chant au Canada, s'est dit, bah tiens, je vais aider mes étudiants à chanter un petit peu mieux. Et il s'est dit, eh bien, je vais masser leur larynx, non pas avec mes mains, mais avec un vibromasseur. Et il s'est amusé comme ça à poser un vibromasseur sur les cordes vocales.
Ça me paraît presque un peu dangereux, ça, non?
Alors, ça a été vérifié par des spécialistes du langage qui ont affirmé qu'il n'y avait aucun danger à cette pratique-là. C'est juste poser le vibromasseur sur le cou des chanteurs pour masser
vibrer,
le larynx.
Ça vibre fort quand même, un vibromasseur, non? Qu'est-ce que vous en pensez, oui, Jean-Habit Paul?
Je vois pas d'abord l'intérêt.
Alors,
premier point.
Il vous l'explique.
Alors, peut-être qu'il va nous expliquer.
Alors, il vous explique que finalement, ça va relâcher la tension, les tensions potentielles du larynx.
D'accord.
Par le massage. Ça va améliorer la puissance et la projection de la voix grâce aux 120 Hz. C'est la fréquence qu'a voisine ce vibromasseur qui va stimuler comme ça les cordes vocales.
D'accord.
Et les améliorer.
D'accord.
Et il a testé ça sur 150 étudiants.
Oui.
Les 150 étudiants ont unanimement confirmé les bienfaits d'un massage pour chanter de manière plus agréable.
Alors, premier point, à partir du moment où il y a 100% dans une statistique scientifique, c'est pas scientifique.
On est d'accord. Voilà.
Terminé. Voilà. Si je vous dis, je vais prendre l'exemple d'un excellent ami qui nous a quitté il y a pas très longtemps, qui est André Brahic, qui est un ami intime, personnel, qui était un astrophysicien exceptionnel. Et ça vient de lui, j'aime pas prendre la phrase des autres. Il dit, tout ce qui est scientifique, je peux vous prouver le contraire. Mais tout ce qui n'est pas, je peux pas. Dire, je vous dis Dieu existe, je peux pas capable de me dire le contraire, ou Dieu n'existe pas, c'est pareil. Eh bien, dans une, quelle que soit l'expérience, et je fais énormément de travaux scientifiques sur le plan de la voix, et d'autres d'ailleurs, à part de ces 100%, c'est pas. Deuxième point fondamental dans ce que vous avez dit, qui est très intéressant, c'est que le massage d'un larynx, ça ne veut pas dire grand chose. Dans la mesure où les cordes vocales sont derrière un cartilage qu'on appelle le cartilage thyroïde. Donc, il y a une barrière osseuse.
Ah.
Troisième point, ce qui est fondamental, oui, là, c'est intéressant, c'est que la voix, c'est pas seulement les cordes vocales, c'est également toute la musculation périphérique dans la gorge qui fait que si vous êtes tendu, à ce moment-là, oui, je vais crisper ma voix parce que tout le muscle est pris à l'intérieur. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être que dans certains domaines, ça crée une voix extrêmement avec beaucoup de tension, mais oui, c'est intéressant pour la kinésithérapie périphérique dans le cou par rapport à la corde vocale. Là, oui. Mais le reste,
donc c'est tout à fait erroné, d'après vous, concernant le larynx.
Erroné, non. J'aime pas dire erroné, mais disons que il a voulu faire un buzz entre guillemets là-dessus.
Mais dès qu'on utilise un vibromasseur pour quoi que ce soit aujourd'hui, c'est pour faire un buzz. De toute façon, c'est ridicule.
Enfin,
voilà.
Oui, c'est comme ce vibromasseur plus là que j'ai trouvé. Je terminerai avec ça. Qui ne marche qu'au son de votre voix, il se mettra à vibrer si vous le sifflez pas, mais si vous l'appelez.
Non, mais ça c'est encore plus stupide parce qu'en général, on commence à vibrer avec notre voix quand on commence à avoir du plaisir. Donc c'est ridicule.
Exactement.
Ça, il va jamais démarrer.
Tout à fait. Non,
Pulse, pour ceux que ça intéresse, c'est sur rmc.fr.
Bon, allez, on se retrouve dans un instant et puis on va parler de la voix du futur, cette reconnaissance vocale. Où est-ce qu'on en est? Jean-Habit Paul va nous en dire plus dans un instant.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Et nous évoquons la voix aujourd'hui avec Jean-Habit Paul qui est avec nous et qui est l'auteur de ce livre Le pouvoir de la voix aux éditions Allori. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la voix, je vous le conseille. Tout est expliqué, il y a vraiment des tas d'anecdotes aussi passionnantes. Alors vous évoquez à la fin du livre la reconnaissance vocale,
oui.
Parce que c'est vrai que peut-être demain,
oui.
on pourra faire marcher tous nos appareils électriques simplement à la voix, et personne d'autre que pourra...
Mais ce qui est beau dans la voix, c'est son imperfection. La reconnaissance vocale, tous les ordinateurs qu'on va employer systématiquement vont vers une perfection. Et c'est extrêmement réducteur de dire qu'on va pouvoir imiter la voix dans un ordinateur. Et j'en veux pour exemple, un exemple relativement simple, Stephen Hawking, que tout le monde connaît. Il a une voix qui est prise par, en tapant sur un clavier, il y a une voix qui sort qui est une voix de robot. Mais aujourd'hui, on sait parfaitement, dans quelques années, on va vous mettre un casque avec des petits éléments qui vont être plantés sur le cuir chevelu. Et vous pensez à un mot, il va être dit par l'ordinateur. Avec la voix que vous voulez. Vous avez la voix de Robert Hossein, la voix de Garou, la voix de Gérard Darmon, ou par la femme de Delphine Seyri, ou de peu importe. Eh bien, à ce moment-là, que se passe-t-il? C'est que si on fait ça pour Stephen Hawking, est-ce qu'on va pas démystifier quelque chose? Est-ce que finalement, celui qui le regarde, qui l'admire dans cette voie du futur, ne veut pas garder justement cette espèce de d'irréductibilité de la voix dans lequel c'est complètement irrationnel?
Alors, vous voulez dire que voix... finalement l'émotion va disparaître,
voilà,
en quelque sorte, c'est ça.
Ouais. Oui, oui. Pour faire simple, effectivement, le côté émotionnel va disparaître, mais cette émotion peut se greffer sur une voix de robot. On a vu ça au Japon. Il y a des gens à qui on a donné, on leur a dit voilà, vous allez prendre un robot comme compagnon pendant 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Et c'est incroyable. C'est qu'ils vont dire, bon, et il y en a certains qui ne veulent pas le rendre. Il y en a non. Moi, le robot, je le garde, c'est avec lui que je m'entends le mieux. C'est impressionnant. Ça montre un état de manque impressionnant sur le plan de l'affect.
Bien sûr. Nous avons Marc qui est avec nous et qui voudrait témoigner parce qu'il a 2 voix différentes. Bonjour Marc, vous êtes imitateur?
Bonjour, non, pas du tout. Je vous appelle parce qu'en fait, voilà, j'ai la particularité d'avoir 2 voix différentes. Donc, la voix avec laquelle je vous parle. Mm-hmm. Et une voix de petit garçon en train de muer, en fait.
Oui.
Donc, est-ce que c'est un blocage lié à l'enfance, parce que la période de la mue...
Mais vous voulez dire que cette voix de petit enfant, elle vous surprend, c'est-à-dire qu'elle arrive à des moments où vous ne vous y attendez pas?
Non, je la maîtrise complètement. Je maîtrise complètement mes 2 voix.
Bah, vous pouvez nous le faire un petit...
Alors, ça m'ennuie un peu à l'antenne, parce que je pense être reconnu et je suis en contact avec pas mal de gens. Je pense être reconnaissable. Donc,
pour répondre à votre question, elle est relativement simple. C'est pas une question de voix qui est muée ou pas muée. C'est pas une voix de petit garçon ou une voix d'adulte. C'est tout simplement sur la corde vocale, vous avez une anomalie ou une petite gêne vocale qui fait que vous avez ce qu'on appelle les cordes vocales, c'est 2 muscles recouverts d'une muqueuse. Ces muscles sont comme votre biceps. Et la muqueuse, c'est comme la peau sur la corde vocale. Okay, vous avez ce qu'on appelle un sillon. Un sillon, c'est un petit creux dans la corde vocale qui fait qu'à un moment donné, si vous sollicitez cette vibration, dans la mesure où le sillon a effacé une des couches, c'est un peu technique, mais une des couches de l'épithélium de la corde vocale, eh bien, vous allez monter pratiquement de 7 à 8 notes dans les aigus sans aucun effort. Donc, vous avez effectivement une double voix, mais cette double voix n'a rien à voir avec un problème de puberté, pas puberté, testostérone, pas testostérone. Ça a à voir avec une qualité ou une anomalie, ça dépend de quel côté on va se placer, pour pouvoir monter dans les aigus et faire ce que vous avez envie de faire avec votre voix.
D'accord, parce que c'est un peu délicat, parce que...
Non, mais on vous demande
non,
pas
c'est
de...
Bon, non, c'est bon.
C'est bon, on a compris,
Marc. Non, mais bien sûr, mais bon, après, c'est ennuyeux, parce que j'ai un physique qui n'est pas du tout en rapport avec, évidemment, ma voix aiguë que j'utilise au quotidien.
Puis vous avez compris, les voix aiguës, ça charme pas les femmes, hein, Marc, alors laissez-la tomber,
ouais,
celle-là.
Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir pu séduire beaucoup de femmes et les femmes qui ont compté dans ma vie avec cette voix-là. Donc bon.
Avec la voix aiguë.
Oui, avec la voix aiguë. Ouais.
Ah oui.
Ouais. Et donc c'est un peu perturbant pour moi parce que j'aimerais bien parler avec la voix avec laquelle je vous parle. C'est une voix qui est beaucoup plus en adéquation avec mon physique. Mais au quotidien, je jongle avec les deux et des fois, j'aimerais bien m'en sortir.
Que Marc peut subir une opération, non, pour régler ce problème.
On peut éliminer, bien sûr, on peut éliminer cette voix aiguë, pas la voix grave, par une injection simple.
Il vaudrait mieux, oui.
Par une injection simple, en recréant, en enlevant ce petit sillon, se creant la corde vocale, une injection d'acide hyaluronique dans la corde vocale. Point là.
Voilà, donc vous voyez Marc, il y a même une solution. En tout cas, moi ça m'a passionné, le pouvoir de
merci
la voix,
beaucoup.
C'est aux éditions Alary, Jean Abitbol, et à mon avis vous avez passionné aussi ceux qui nous écoutent. Ça donne envie d'en savoir plus, ben c'est dans le livre évidemment. Alors une voix, mais alors voilà. Un organe exceptionnel.
Voilà. Oh merci. Comment ça va Brigitte?
Bonjour Vincent.
Professeur.
Bonjour.
Vous allez bien?
Moi jusque-là ça va.
Bon ouais, ça va. Alors nous on va parler de Gasquet, parce que Gasquet est en train de tenir tête à Muret. Ah oui, il s'accroche.
Ça, c'est génial.
Il s'accroche, on parlera bien sûr de l'euro, on aura du Moscaland, du Moscazap, les paris RMC avec le pauvre Christophe Payet. Mais voilà, c'est un peu l'émission omnisport de la prime. après-midi. Ma petite Brigitte, on va essayer de pousser bien fort derrière ton émission.
Mais pousse, voilà. Vincent, pas de problème. Demain, c'est Jean-Michel Hougourlian qui sera avec nous, neuropsychiatre, et on évoquera la lutte de pouvoir dans les couples. Et avec Laurent Carilla, on s'autorisera à se faire plaisir. À demain.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.